Bienvenue dans la bande originale avec Morgane Cadignan, Jérémy Crédville, Alexis Le Rossignol
et Leïla Kader-Bonnavi.
Ouais, merci. Mais non, il y a Fanny Rué aussi. On a failli l'oublier pour Petit Lapin. Et notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Labro. Salut la bande, soyez les bienvenus. Comment ça va ce matin?
Mais fort bien.
Ah bah tiens, regarde. Ah voilà, la porte était fermée, t'étais exclu. Voilà.
J'ai la clé.
J'en ai profité pour prendre le pouvoir temporaire.
Non mais t'es chez toi, mais je rêve. Vous avez fait exprès ou quoi?
Non, mais ça m'est arrivé aussi tout à l'heure.
C'est vrai?
Ouais.
Okay, faut, en fait, Nagui, il faut pousser parce que tu as tiré.
Non.
Pousse, ça veut dire pousser.
Non. Ok.
Petite flip.
Mais non, j'ai trouvé ça très désagréable. Je me dis, mais ils sont enfermés à clé dans le studio.
Mais non.
Ils veulent pas que je. Là, je pleure. T'as dit bonjour à tout le monde,
j'ai
tout
dit
est fait.
Bonjour à tout le monde, j'ai même promis qu'on rendait à midi pour les infos.
Ah, ok, bah, ça, c'est... maintenant c'est toi qui vas gérer. Moi, je n'assume absolument pas cette décision.
Très beau lancement.
On est ravis de vous retrouver, on est ravis d'être ensemble et d'accueillir Philippe Labro dans quelques instants pour son livre. Et qui dit Philippe Labro dit un blind test que je découvre en même temps que vous. Ah oui, c'est ça. Non, parce que j'avais oublié. Ah.
Bah, joue.
Non. J'avais oublié, mais ça va être très facile. Très facile.
Leïla,
C'est les gendarmes,
ça? Non.
Le pont de la rivière Kwai.
Exactement.
Ah, on n'a pas le même rêve.
Ah bah oui.
Je suis très vieille. Hein.
Chacun son enfance.
J'allais dire les Charlots.
Il y a un petit côté. Non, mais je comprends. Alors, c'est le pont de la rivière Kwai. Pourquoi? Parce que le livre...
Ah, rivière.
Exactement. Ah, j'irai nager dans plus de rivières. C'est le titre du nouveau livre de Philippe Labro. Donc, tout est autour du mot rivière. Même Fanny, tu peux jouer Fanny, mais en faisant un geste. Puisqu'avec ce fameux décalage, le temps que tu parles, on est déjà passé à l'autre chanson.
Et
on
dira...
Voilà.
D'accord. Maintenant, les gendarmes.
Passe au geste.
Voilà. Très bien. Bon, ça commence avec de l'eau.
Leïla.
Oui.
Ah oui. Bonhomme.
Ah oui,
joli.
Bien joué.
Ambiance chez vous.
Bouge ton corps. Un point pour Leïla, un point pour Morgane.
Fanny. C'est Bruce Springsteen, The River.
Joli.
Oh, c'est
River,
bien sûr.
Ok. Toutes les femmes mettent des points.
C'est 2020, bébé.
J'adore le bébé à la fin. Leïla, Morgane et Fanny ont des points. Les hommes ont le droit de jouer.
Pleurer, Cry Me a River. Comment elle s'appelle?
Non, mais je prends.
Elle est devenue autrice Victor Laszlo.
Jolie.
Pleurer des rivières.
Cry Me a River.
Pleurer des rivières.
Victor Laszlo, qui était top modèle avant de chanter.
Et autrice maintenant.
Exactement. Mais elle le fait bien.
Oui. Leïla.
Ah, oui.
Ike Turner. Et Tina.
Tina.
River Deep.
Ah oui, donc pas du tout, mais oui quand même. Ouais.
C'est Philippe, oui. C'est
River Deep,
dans le désordre.
Mais cette mauvaise foi, Alexis, du mec qui ne trouve pas et qui se moque de ceux qui trouvent.
C'est-à-dire, sinon on m'entend pas, donc bon.
Ouais, c'est ça.
Morgan.
Like
ah oui.
Ouais. Et le titre, tu l'as?
I follow
the rivers.
C'est The River, le titre.
I follow the river.
Je croyais que c'était juste I follow.
Je croyais que tu jouais avec compléter les paroles.
Ouais. Je bloque.
Attention, pour l'instant, Morgane a deux bonnes réponses. Leïla en a trois. Fanny, une. Rien pour Alexis, rien pour Jérémy. Se sont-ils réservés?
Mais oui.
Pour le dernier titre, avec Rivière dans le titre, ça vaut 5 points.
Mais merde.
Leïla.
Oui.
Niagara.
Au-delà de la rivière, Niagara. Okay.
Alors Justin Timberlake,
ouais,
non pas.
J'attendais le Cry Me a River.
T'as triché?
Non, j'ai pas triché. Pourquoi j'aurais triché?
Parce qu'on me dit qu'elle a triché.
Mais comment
elle
j'ai triché?
Mais je sais pas.
Non,
comment.
Mais disons qu'il y a un sacré délai entre le moment où elle demande la parole et le moment où elle répond. Hein.
Alors, c'est vrai qu'elle met à peu près 10 minutes, mais elle
a
le droit.
Elle a le droit d'hésiter.
Elle,
ouais,
exactement, elle a le droit.
Merci de remettre en question.
C'est surtout, elle a le droit, c'est Leïla. Et
merci.
En plus, t'as vu, la sororité ici, ça n'existe pas. Bon, Leïla a gagné, c'est tout.
Merci.
Voilà, bravo.
Un squat.
Merci d'accueillir Monsieur Philippe Labro.
La bande originale avec Nagui.
suis d'autant plus contente de gagner le jour où il y a Philippe Labreau.
Comment ça va, ami?
Et vous-même?
Extrêmement bien, extrêmement bien. On est ravis de vous accueillir chez vous. Je n'oublierai jamais que vous nous avez fait l'honneur de faire partie de cette bande originale à sa naissance. J'espère que vous êtes content de la manière dont le bébé a grandi, maintenant que nous sommes leaders, toutes radios confondues, dans cette tranche. Philippe, vous signez J'irai nager dans plus de rivières, avec le sentiment d'ailleurs que ce titre aurait pu être totalement différent. D'ailleurs, vous le dites plusieurs fois dans le livre. J'aurais pu appeler ce livre « Je n'ai rien compris ». J'aurais pu appeler « L'amour existe ». J'aurais pu l'appeler... j'en oublie, il y en a deux, trois autres comme ça qui sont cités tout au long de votre livre. Et vous dites même qu'une rencontre avec Romain Gary, parce qu'il y a beaucoup de rencontres dans votre livre, une rencontre avec Romain Gary, où il vous explique comment, entre guillemets, écrire, c'est d'abord... trouver un titre et ensuite écrire immédiatement dès que vous en avez envie sans se poser de questions.
Écris même si tu n'as pas de sujet.
C'est ça. C'est ça. Et là, le titre, vous l'aviez.
J'ai un sujet là.
Vous avez d'abord le sujet, mais le titre, vous l'avez trouvé après, j'ai l'impression.
Oui, c'était un poème d'une américaine qui s'est inspirée d'un autre poème de Borges qui dit si je devais revivre ma vie, j'irais commettre encore plus d'erreurs. J'irai grimper plus de montagnes, j'irai danser plus de danses, j'irai manger plus de fraises, j'irai nager dans plus de rivières.
Voilà. Et alors ces rivières, il y a évidemment cette image de un peu à la Martine, c'est le autant suspend ton vol. Lui, c'était au bord d'un lac. Là, on a l'image de la rivière, de cette eau qui coule et de ce temps qui passe. Évidemment, c'est la vie qui défile. Vous, en train de revoir ces carnets Moleskine, c'est toutes ces notes que vous avez prises avec vos rencontres, le vécu, beaucoup d'aphorismes, beaucoup également de citations et de références faites, mais beaucoup de leçons de la vie. Votre famille est très présente, la plus proche dans tous les sens du terme, que ce soit par en haut, par en bas, autour de vous, en tout cas la famille est présente. Et cette rivière, ça me fait surtout aussi penser à votre maman, parce que il y a l'eau maternelle, il y a cette vie.
Éric, hein.
Pardon ?
Il est lyrique.
Non, mais c'est à cause ou grâce à vous, en tout cas. Merci. C'est ce sentiment-là. C'est-à-dire que elle était présente avec cette mère inconnue que vous avez écrite, sur laquelle vous avez écrite.
Et ma mère, cette inconnue.
On vous avait reçu pour parler de ce roman. Mais c'est la vie, ce goût à la vie, et de regarder cette vie, mais surtout de ne pas la regarder comme un bilan, mais comme presque un redémarrage.
Ah oui, tout recommence toujours. C'est ça la rivière, d'ailleurs. La rivière, c'est quoi ? C'est le mouvement. C'est la limpidité. Et j'aime l'écriture limpide. J'aime lire des choses intelligibles et qui s'adressent à tout le monde.
Oui. C'est intelligible et pas intelligente, c'est ce que vous dites dans le livre aussi.
Oui, c'est ce que me disait mon maître, un de mes maîtres, Lazareff, qui disait « À défaut d'être intelligent, soyez intelligent
». C'est ce qu'on fait ici, on articule.
Et vous reprenez cette phrase de Colette qui dit « Il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne ».
C'est ça qui est génial, ouais.
Oui, chacun a son style. D'ailleurs, Morand, qui n'est pas un auteur que j'aime, d'ailleurs, compte tenu de son passé, de son comportement, et ça existe, hein, on ne peut pas juger un auteur simplement sur ses livres, disait « Tout écrivain doit avoir sa longueur d'onde. » On a chacun notre musique.
Sa fréquence, ouais, c'est ça.
Oui, sa fréquence. Et alors j'ai essayé de trouver ma fréquence pendant quelques longues années. Je crois que j'ai à peu près trouvé avec mon 25e livre.
Oui, sauf que celui-là est particulier. Ce n'est pas un roman au sens avec des personnages, avec une histoire et ce cheminement. Il y a presque un côté, pardon, ne le prenez pas mal, si c'est maladroit, je suis désolé, un côté chaotique dans la lecture du roman, mais comme la vie peut l'être. On peut passer d'une biographie ou d'une lettre que vous avez écrite ou que vous auriez aimé écrire, c'est le cas aussi dans ce livre, à une personnalité, à une déclaration d'amour à votre épouse, à une histoire sur Pierre Lazareff ou la rédaction de François, ou une rencontre avec Kennedy. Enfin, on passe de l'un à l'autre, et pourtant, c'est très cohérent.
C'est-à-dire, j'ai voulu le construire à partir de mes carnets Moleskine, dans lesquels j'avais sarclé, comme un jardinier sarcle les mauvaises herbes, toutes sortes de citations qui m'ont servi un peu comme les petits cailloux blancs.
Ouais. Les petits poussés.
Le petit chaperon rouge.
Ah non, c'est pas le petit poussé ?
Je sais pas, peut-être.
Si. Là le ou petit poussé.
Non, c'est le petit poussé.
Le petit poussé.
Je l'ai relu hier soir. Donc,
Bravo. Et il va vers où ? Lui, malheureusement, il va vers la maison où il y a l'ogre.
Ouais.
Moi, je vais vers la fin qui consiste à dire, effectivement, tout recommence et l'amour existe. Et j'ai voulu raconter un peu mon époque, pas seulement ma vie, mais celle des autres. D'ailleurs, les autres, ce sont aussi ceux qui font
bien
une
sûr.
Vie. Hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, ma famille, bien sûr, mais pas seulement. Et puis, des inconnus, des visages, des extraits de films, des chansons, il y a tout ça. Alors, je l'ai construit un peu, Nagui, comme, au fond, un montage de films, avec des séquences. Ou alors, comme si on parle de musique, avec des longues et avec des brèves.
Ouais.
Mais c'est une volonté d'emmener avec moi dans la rivière tous les lecteurs et toutes les lectrices.
Et quel casting ? Vous parlez d'un montage, vous parlez d'un film. Il y a un casting incroyable avec des rencontres. Alors, je pensais avoir appris beaucoup de choses auprès de vous sur John Fitzgerald Kennedy, mais alors, l'histoire de la conférence de presse, de la citation qui est faite et qui a été notée par... bref,
j'ai oublié. Lui
non, il y a une Kennedy doit dit quelque chose et il dit mais c'est off, c'est
oui.
off, c'est ah, off the record,
oui.
Et c'est
ah,
comme
c'est,
et
c'est génial,
et
ça,
c'est, ouais, voilà,
et c'est mon ami Tom Wolfe,
c'est ça,
grand écrivain
ouais.
américain, il est jeune journaliste à l'époque et Kennedy, jeune sénateur, fait campagne
en campagne pour être élu, donc il n'est pas encore président,
loin de là, voilà. Mais quand même il est là, il a déjà sa petite mafia irlandaise autour de lui et il est dans une sorte de hangar où il y a des gens et il est en train de dire du mal des vieux sénateur qui va essayer de balayer. Et puis, un de ses adjoints sortant, il dit, vous savez qu'il y a un journaliste qui est là.
Il y a un mec qui prend des notes, même,
oui.
carrément.
Ouais. Et Kennedy dit, oui, mais c'est pas grave, c'est en off. Bon, et Wolf dit, il n'y a pas d'off, hein, je suis là, moi je prends des notes, excusez-moi, je suis journaliste. Kennedy sort avec lui, il lui dit, écoutez, hein, vous n'allez quand même pas me faire ce coup-là. Et Tom, qui avait un chapeau sur la tête, j'ai des photos de lui, extraordinaire. C'est presque la caricature
le
du
feutre.
Du fouet.
Ouais.
Il lui dit, écoutez, non, moi je fais mon métier. À la limite, il lui dit pas, je vous emmerde, mais presque. Et Kennedy, lui, si vous publiez ça, vous allez avoir des ennuis. Et évidemment, il publie.
Votre patron va avoir des ennuis,
oui,
mais la phrase.
Il publie le papier le lendemain. Et le lendemain, dès que le journal paraît, il y a la mafia irlandaise qui arrive dans le bureau et qui se met à les engueuler, à les menacer et tout. Et Wolf les regarde en disant, mais écoutez, excusez-moi, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et à lui seul, jeune, il démontrait déjà la liberté d'expression, l'indépendance qu'il a eue toute sa vie, parce que Wolf, il a été extraordinaire. Hein. Son œuvre est fabuleuse.
Le journal, c'était le Springfield...
Vous avez bien lu.
Je sais plus trop quoi. Bref.
Non, mais
écoutez, j'essaie de tout faire de mémoire, donc... commence pas, hein, Jérémy, ne commence pas. Bon, Philippe Labrou est notre invité, j'irai nager dans plus de rivières. Alors, c'est impossible de tout dire, de tout raconter, non, tellement c'est dense, tellement chaque ligne est chargée d'une histoire, d'une personne. Et surtout d'une valeur et d'une leçon.
C'est ça, et on a envie d'apprendre par cœur toutes ces citations aussi, parce que vous donnez la parole à tellement de gens, et à chaque fois ce sont les phrases choisies, j'ai cité tout à l'heure Colette, mais vous citez aussi Yourcenar, vous citez tellement de personnes, et puis vous faites aussi un exercice que j'adore, à la manière de Je me souviens, c'est le J'emporterai.
Ah oui, voilà.
Cet exercice de liste là, il est complètement bouleversant, parce que vous amassez ainsi, avec autant de petits éléments, toute une vie, toute une pensée, c'est beaucoup plus fort que de longs discours de sagesse.
Et ce n'est pas une simple énumération, ouais. Et on va revenir sur le point de départ de ce J'emporterai, qui est un triste point de départ, mais avec une force et une valeur humaine très dense. Mais on est donc ravis de vous accueillir, Philippe Labrou, dans cette émission. Il y en a une, par contre, qui n'est pas du tout d'accord, c'est Morgane Cadignan.
Mais ça ne me surprend pas.
Que Morgane Cadignan, vous n'aimez pas Philippe Labrou?
Non, Philippe Labrou, je vous aime pas, parce que déjà, le titre, quoi, J'irai nager dans plus de rivières, non mais on dirait le titre de la prochaine chanson du prochain Pocahontas. Surtout que Philippe, quand je lis votre biographie, l'expression qui me vient en premier à l'esprit, c'est « mais toujours plus ». Vous avez été reporter dans les journaux, vous avez présenté le 13h, vous avez réalisé le film qu'a lancé Luchini, puis vous avez dirigé RTL avant de lancer Direct 8. Si j'étais psychologue, je dirais que vous vous cherchez, mon petit bonhomme. Hein. Et c'est pas avec ce livre que ça s'arrange, parce que vous regroupez des moments de vie, des rencontres, des idées, des citations, et hormis le fait qu'il montre bien que vous êtes incapable de choisir un thème, ce livre, il nous montre surtout que vous connaissez le monde entier. Mais c'est fou, on passe du récit d'une soirée avec Johnny Hallyday à un portrait de Tom Wolfe, en passant par une conversation avec Romain Gary en toute détente. Bordel, moi, au début de l'année, il y a Virginie Efira qui m'a dit bravo pour ta chronique dans l'ascenseur. Je me suis commandé une étoile sur Hollywood Boulevard. Quoi. Vous connaissez, les amis, la théorie selon laquelle on est à 7 personnes de connaître le monde entier.
C'est ça.
La poignée de main.
Voilà.
Ouais,
Philippe, il est à une personne. Voilà.
Donc nous, on est à deux maintenant.
D'ailleurs, vous avez parce qu'on lui a pas serré la main, Covid
oblige. Ah, ah non, voilà. Raté quoi. D'ailleurs, vous avez promis de me raconter votre partie de pétanque avec Socrate. ça va, je déconne. Je sais très bien qu'ils ont pas pu se connaître parce que Socrate a 50 ans de plus que Philippe, je suis pas conne. D'ailleurs, je voulais révéler les dessous de l'écriture de cette blague, mais Daniel étant absent, on ne frappe pas un homme à terre. Un peu quand même, Daniel Morin, si tu m'entends, Dani, ne tape pas très vieux monsieur connu dans Google, ça va te faire mal. Je sais pas où ils ont trouvé cette photo de toi à la cano, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse le principe, pas toi sur un kitesurf, hein. Toi on dirait un aigle royal, bref, je m'égare. Voilà, trop de sujets dans cette chronique-là, hein. C'est le bordel, on dirait un livre de... Non. En tout cas, Philippe, comme l'a dit Nagui, vous avez fait partie des débuts de l'émission, comme il l'a souligné, à la naissance de l'émission. Bon, là, on est un peu dans la partie crise d'adolescence. En tout cas, après Michel Simès la semaine dernière, Jonathan Lambert hier et Philippe Lavreau cette semaine, je commence à me demander s'il n'est pas un peu nostalgique, notre Nagui. C'est
ouais,
dur de vieillir.
Totalement. Hein. J'aime les gens.
Alors, pour reprendre Daniel Morin, je le regrette, hein. C'est un vrai copain.
Oui, non, mais on le regrette.
On regrette tous.
Il n'a pas le Covid, il a juste une espèce de rhume de.
Ouais.
Non, arrêtez.
Il a la crève, c'est l'hiver.
Mais ouais, puis en même temps, j'ai quand même donné 2-3 consignes pour pas qu'il revienne tout de suite.
Donc,
c'est très. Ce moment est gênant, Philippe, on en parlera hors antenne, je suis très emprunté.
Tu nous manques, Daniel.
Mais, ou pas.
Mais.
Revenons donc à cette rencontre. Tout part d'un repas, à une table étoilée et avec une table souriante, pleine de vie, de dynamisme. Bernard Loiseau était quelqu'un qui, dans son regard, avait une lueur, avait ses pas de doigts qui étaient là en permanence en train de vous sourire, une gentillesse débordante, une passion pour tout ce qu'il faisait, pour tout ce qu'il disait, un entrain vraiment, un épicurien. Vous allez déjeuner dans ce restaurant, très naturellement, ce qui ne serait pas le cas de tous les patrons de médias, très naturellement vous demandez l'addition à la fin. Je répète, ce n'est pas le cas de tous les patrons de médias.
Sauf que Bernard Loiseau ne veut pas.
Et Bernard Loiseau refuse. Là, vous demandez, enfin du moins, le maître d'hôtel dit non, c'est Monsieur Loiseau qui vous invite. Vous demandez à ce qu'il sorte de ses cuisines et là, il vous dit non, non. Tu es mon invité, et de toute façon, on n'emporte rien.
Carpe diem. On n'emportera rien.
On n'emportera rien, sous-entendu, après la mort. Ouais, de toute façon, ça sert à rien de garder ou d'engranger de l'argent. Ouais. Et on sait que malheureusement, tout est parti et sa volonté de quitter ce monde vient justement de l'endettement et de l'impossibilité de courir après les étoiles.
Dépression.
Il aurait dû vous faire payer ce jour-là, quoi.
Oui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et la dépression qui est le point commun, elle revient beaucoup. Ouais. Votre dépression, déjà, elle est revenue deux fois dans votre vie. Vous le racontez dans le livre. Vous rendez un hommage vibrant et aux infirmières et à cette Florence qui, d'une phrase que vous analysez d'ailleurs sur le choix des mots, explique tout de la manière dont l'empathie avec laquelle elle le fait, la générosité avec laquelle elle vous soigne et surtout le lâcher prise avec lequel vous la laissez faire simplement parce qu'elle a utilisé les mots corrects qui vous rassurent, qui vous détendent et qui vous font comprendre qu'elle n'est que là pour vous faire du bien et que tout va bien se passer grâce à elle. Mais on va reparler des aides-soignants évidemment dans quelques instants, mais retour à cette phrase.
Loiseau,
on n'emportera rien. Et c'est de là où vous avez dit, moi je suis pas d'accord, j'emporterai. Et là vous commencez vos citations.
Oui, les citations qui vont aussi bien du chant d'un torrent que
d'une musique des Rolling Stones.
Oui, d'une musique des Stones, que d'une séquence que j'adore de Steve McQueen dans Getaway, avec son fusil à pompe là dans cet hôtel à la frontière mexicaine, que des tours de Notre-Dame qui brûlent, que des tours de Manhattan qui s'écroulent. J'ai essayé de tout mettre dans ces j'emporterai. En fait, je crois qu'il y a 7 fois j'emporterai, qui sont, n'est-ce pas, Leïla, qui a bien lu le crayon en main, qui sont, au fond, une sorte de kaléidoscope, pas seulement de ma vie du tout, mais de nos générations, d'une partie du demi-siècle.
Ou en tout cas du prisme de ce que l'on a tous vécu en commun, de votre prisme. Ouais, C'est aussi ce que vous avez ressenti en voyant ça.
Vous êtes d'ailleurs dans mes emporterais.
Je suis touché que vous m'emportiez. Et je suis extrêmement flatté d'être dans cette liste. Non, mais je ne pensais pas un jour être sous votre plume. Philippe, au-delà de l'amour que j'ai pour vous, il me manque dans ce livre, un grand pan de votre vie, qui est la radio. Elle est présente, cette radio, elle est présente avec des rencontres, avec des marches d'escalier pour raccompagner, recevoir ou raccompagner Jacques Chirac, oui, qui était donné comme le loser de l'élection et qui non seulement va emporter la présidentielle, mais en plus va vous accueillir en vous prenant par l'épaule et en disant devant tous les autres journalistes, voilà quelqu'un qui est venu m'accueillir alors que vous, oui, vous ne le faisiez pas quand j'étais donné perdant.
Petit matin sous la pluie, il avait un blouson.
C'est
tout
ça.
Tout seul avec Claude, son admirable fille, et il était tout étonné que je le reçoive, ce qui est normal, que vous êtes pas trop média, il y a un homme politique qui arrive le matin, je le reçois, et ça l'a frappé, ça l'a presque ému, si bien que lorsque, à l'époque, il était donné complètement battu, hein, ouais, lorsqu'ensuite il est, grâce à sa défaite contre Balladur, nommé président de la République, il fait des déjeuners avec des grands patrons de presse, tout ça et tout, il m'invite, il m'assied à sa droite, mais ça m'a sur l'épaule, regarde tous les grands patrons de presse autour de la table en disant « Voilà quelqu'un qui, le matin, quand ça n'allait pas bien sous la pluie, savait recevoir ses invités. » Ça m'a beaucoup embarrassé.
Il y a beaucoup... Oh non, ça vous a plu quand même. Arrêtez.
Bah,
Philippe,
oui,
Philippe, quand même.
Oui,
un peu d'embarras quand même.
Surtout sachant qu'autour de cette table, il n'y avait que des gens, ouais, que vous méprisiez, donc c'est quand même bien ce moment-là.
Que des confrères, mon cher.
Mais c'est ce que je dis.
Je ne méprise pas mes confrères.
Non, mais quand je dis que la radio est peu présente, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes autour du monde de la musique, autour de Johnny Hallyday, de Serge Gainsbourg, d'albums que vous avez dû écrire pour Jane Birkin en un jaillissement comme ça de verre. Il y a beaucoup de cinéma avec cette espèce de coaching à distance de Melville. Incroyable, ouais, ce que vous racontez sur Melville, la manière dont finalement il vous conseille presque même des objectifs de,
oui,
réalisation.
Oui, oui. Oui, attendez, demain vous faites le plan numéro 8, parce qu'il avait mon scénario de 100 mobiles apparents. On avait travaillé ensemble, il avait donné des tas de conseils techniques, et moi j'étais à Nice en train de tourner, et tous les soirs je l'appelais pour dire, voilà, demain je fais ça, ça et ça, tel et tel plan. Il me dit, attendez, commencez pas par ce plan-là, commencez par l'autre, parce que le soleil va se lever à telle heure, donc faites attention. Puis alors, prenez pas un 50, prenez un 70, c'est incroyable. Au point qu'un jour...
Pardon, Philippe Labreau, oui, c'était un manque de confiance en vous, ou c'était le plaisir de partager avec un maître?
Écoutez Nagui, c'est ça. Vous avez un maître, un type qui a un savoir-faire extraordinaire, et qui a la générosité de vous transmettre son savoir, son mentor, ben vous l'écoutez, vous prenez des notes. C'est pas pour ça que vous faites tout ce qu'il vous dit de faire. D'ailleurs, il m'a mis de faire des choses, et là j'ai fait une erreur, j'ai trop suivi sur un conseil, puisqu'il m'a conseillé d'être désagréable sur le plateau en disant « il faut savoir se faire détester ». Parce que lui estimait qu'il faut expliquer aussi que Jean-Pierre était un homme très complexe, compliqué, et ce qu'on peut appeler peut-être un pervers narcissique, n'est-ce pas? Et donc pour lui, il fallait être en très mauvais rapport avec les comédiens pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes. C'est ainsi que...
Et être le taulier sur le plateau, c'est-à-dire faire craindre pour dire...
Oui, mais vous pouvez être taulier sans vous faire craindre.
J'entends bien, et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait ensuite, sauf qu'il vous a donné ce conseil que vous avez suivi, y compris avec Jean-Louis Trintignant, ce qui donne une lettre bouleversante que vous lui adressez.
En admettant que j'étais comporté comme un jeune con, ce qui était le cas, que je m'étais très vite aperçu, dès la fin du tournage, ne serait-ce que dans la table de montage, à quel point cet homme, Jean-Louis, avait été formidable et allait faire un rôle que j'ai toujours trouvé remarquable. D'ailleurs, Trintignant, sa carrière est remarquable.
Oui,
il n'a pas fait un mauvais film. Et bien donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte de ma bêtise, de mes erreurs, et j'ai voulu lui demander pardon. C'est aussi ça dans cette lettre, hein. C'est admettre ses erreurs, confesser quelques failles, quelques faiblesses. Mais pour revenir à ce que vous dites sur la radio... Oui, bien sûr, mais ça fera peut-être un autre livre. Dites donc, la rivière continue de couler.
Mais oui, mais non, mais je sais. Et d'ailleurs, vous finissez votre livre par un mot magique qui est vie. C'est le dernier mot de votre roman, et c'est là où on comprend que ce n'est pas un bilan ou ce n'est pas un livre testament.
Non.
Au contraire,
c'est ouvert.
Exactement. Ce sont les racines de l'arbre qui va continuer de fleurir.
Il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a beaucoup touchée à travers tous ces récits, toutes ces expériences, c'est aussi ce sens de l'effort.
Vous faites un parallèle intéressant avec Sisyphe en reprenant deux références, celle de Camus.
C'est drôle d'ailleurs.
Ouais, et celle de Roger Caillois aussi.
Ouais, c'est génial la phrase de Caillois. Ouais, il dit Sisyphe se faisait les muscles.
Mm-hmm. Alors on va rappeler le mythe de Sisyphe très
condamné
brièvement.
Condamné donc à pousser à cette pierre à grimper.
Indéfiniment
haut et retomber.
Et il la remonte.
Et il faut l'imaginer un peu heureux en fait, ce Sisyphe. Et se dire qu'il se fait les muscles, en tout cas il se prépare à autre chose.
Voilà. C'est ça toute mon idée. Derrière la phrase de Camus, à mon avis, il y a le fait que Sisyphe va un jour aller gravir une autre montagne. Ouais. Et ça rejoint d'ailleurs mon poème. Oui, bien sûr, il y a ça, il y a des tas de références, vous avez raison.
Et puis c'est votre rapport aussi au travail, en disant, voilà, tant qu'on a une vocation, on est heureux parce que vous n'avez fait que des choses qui vous ont fait du bien. En tout cas, vous avez essayé de rêver à ça et de le concrétiser.
Il n'a retenu que ça, peut-être, dans le livre.
Oui, parce qu'il n'y a pas de méchanceté dans le bouquin. J'ai essayé de...
Si.
Quoi?
Si, si. Quoi? Justement, à propos de Jean-Louis Trintignant, vous traitez de...
Oui,
de
méchanceté par rapport à moi-même. Oui. Mais je veux
non,
dire...
Non. Je parle aussi de l'assassinat de Marie, où là, vous... ce qui n'a pas été le cas de tout le monde d'ailleurs, vous prenez une position qui est ferme et définitive sur celui qui lui a donné la mort. Non, mais je dis juste que vous dites qu'il n'y a pas de méchanceté. C'est pas de la méchanceté
non,
d'ailleurs.
C'est une position.
C'est ça.
Ouais. Prise de position. Ouais. Oui, il y en a une ou deux dans le bouquin, c'est sûr. Mm-hmm. Oui, j'hésite pas. Après tout, il faut. J'ai pas voulu tout dire, mais vous écrivez pas un livre simplement pour faire des belles phrases, pour faire des belles descriptions. Vous essayez d'y mettre aussi votre pensée. Oui. Vos convictions.
Avec cet esprit toujours de monter d'un cran. Ça m'a vraiment marqué.
Ah oui, c'est une phrase de Malraux.
Que pense Philippe Labro de l'époque? Est-ce qu'on n'est pas parfois enseveli par une forme de fainéantise intellectuelle? Il faut monter d'un cran. Il faut un peu avoir un peu plus d'audace intellectuelle, un peu plus de. Et c'est pour ça que j'en venais au sens de l'effort.
Le travail unique opium, la citation que vous donnez de Mauriac.
C'est fou, hein? Ouais. Ben oui. Il y a une autre citation que je vois de Baudelaire sur le travail qui dit, après tout, le travail c'est quand même moins désespérant que de rien faire. Écoutez, l'époque, oui, elle est chaotique, contradictoire, traversée par toutes sortes de violences, toutes sortes d'extrémismes. C'est pas très agréable, on a un malaise général, on le sent d'ailleurs.
Clairement.
Mon Dieu, que cette année 2020 se termine vite.
Oui, qu'on passe à autre chose. Oui, ouais, c'est clair. C'est qu'on a cette envie-là. Il y a une citation de Nietzsche, puisque tu parles de citation, Leïla, j'ai pas exactement en tête, qui dit que on a besoin du chaos pour trouver la lumière, en fait. Ouais. Et c'est vrai que je reprends cette image de chaotique dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que il y a quand même des blessures. Il y a cette maladie, cette dépression qui revient. Il y a aussi des moments, alors des blessures qui sont plus peut-être dans le travail, des regrets justement avec Trintignant et autres, mais sans ces chaos-là, il n'y aurait pas de partie justement sublime, lumineuse et grande.
Ben, on tombe et on se relève.
On tombe cette fois, on se relève vite.
Vous savez, ça va permettre, on va faire l'entre-soi de vous remercier tous et tous, parce que quand j'ai fait cette petite prestation chez vous, j'étais en train de tomber.
Je sais.
En train de chuter. Et vous le saviez.
Ouais.
Et vous m'avez toléré, accepté. Vous étiez les spectateurs de ce qui était en train de devenir une deuxième chute. C'était ma rechute, parce que j'ai fait deux dépressions. Et je dois tant pis, vous remercier.
Non mais c'est gentil, mais moi je me souviens très bien de la première aussi, où on était ensemble à la radio, et où j'étais venu vous voir en disant « Non, on va pas laisser ça comme ça », et on a fait Ombre et Lumière derrière.
Bien sûr,
aussi.
Ombre et Lumière,
c'est-à-dire,
bon rendez-vous.
C'est-à-dire que moi j'ai une admiration sans borne pour vous,
Morgane a dit « Mon petit bonhomme ».
Et de vous voir.
N'oubliez pas, vous avez affaire à un petit bonhomme.
Alors moi non, je
avec les yeux bleus glaciers quand
même. Un type bien. J'aime bien l'expression type bien et l'histoire qu'il y a dans votre livre autour de cette phrase. Et il était inconcevable pour moi de tomber sur quelqu'un que j'aime qui me balançait des redressements de comportement, parce que je vais vous le raconter. À la radio où nous travaillons ensemble, il y avait un téléphone juste à côté du micro, un téléphone qui ne sonnait pas, il y avait juste une petite lumière, une ligne directe qui arrivait à l'antenne. Et chaque fois que je faisais un truc qui était hors des sentiers, la petite lumière sonnait, le réalisateur pouvait décrocher, il me faisait signe, ça doit être pour toi parce que t'as dit une connerie à l'antenne il y a deux secondes, je décroche. C'était Philippe Labro qui systématiquement me disait si j'avais fait une vanne sexuelle, ouais, sexuelle, il me disait vous avez des problèmes en ce moment, c'est pas là qu'il faut les résoudre. Très bien, au revoir, merci, je raccrochais. Dès que je faisais une vanne sur quelqu'un, vous n'êtes pas là pour régler des comptes personnels. Très bien, monsieur Labro, au revoir. Et alors je peux pas
mais
dire que
tu n'as rien retenu. Quoi.
Je peux pas dire que toutes les leçons ont été efficaces. Là, ouais.
Ce serait un stroboscope le téléphone.
Mais cette espèce de garde-fou et surtout d'avoir le sentiment que le boss est là. Ouais. Il est présent, il écoute, il travaille. Et le boss a commencé par la confiance que vous m'avez prêtée, y compris quand c'est allé très très mal aussi dans ma vie et que j'étais viré de toutes les chaînes de télé et que vous m'avez dit je serai toujours là, la radio sera toujours votre maison, vous êtes ici chez vous et on va pas vous lâcher. Bon, le seul problème, c'est qu'après, il y a des idiots qui sont devenus patrons à votre place et qui se sont comportés bizarrement. Mais bref, on n'est pas là pour faire de l'entre-soi.
Non, on
est
là pour. On en fait quand même, là.
Non, c'est un coup de fil de Philippe Labro, le patron.
Vous n'êtes pas là pour parler entre vous, voilà. C'est ça. Mais il y a des phrases qui sont en effet magiques parce que, et je ne sais pas si c'est l'idée que vous faites de la manière dont un lecteur va digérer votre livre. Ce sont les valeurs justement que vous transmettez, ce sont les reconnaissances que vous avez pour ceux qui vous ont appris, guidé, conseillé, et peut-être même des remerciements à ceux qui n'ont pas toujours été tendres avec vous, mais qui vous ont permis d'être celui que vous êtes aujourd'hui, et ceux qui vous ont soigné, les infirmières, les aides-soignants, les médecins, ont aussi une présence
considérable.
Et vous avez une reconnaissance sans borne pour eux.
Mais oui, vous mentionniez tout à l'heure, je vous remercie, c'était extraordinaire phrase, cette infirmière, alors que je suis en réanimation, ventilée. En fait, il y a 30-40 ans maintenant, j'ai vécu ce que vivent aujourd'hui les victimes du Covid. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en réa avec une machine qui respire à votre place. Sauf qu'à l'époque, les machines étaient beaucoup plus vétustes qu'aujourd'hui. C'était très, très douloureux. Donc, de temps en temps, vous aviez une espèce d'engorgement qui faisait que vous appuyiez sur la petite poire pour que l'infirmière arrive pour essayer de vous soulager.
Pour respirer.
Pour respirer, bien. Et là...
Je précise pour respirer, parce que c'est vraiment le sentiment de dire « je peux mourir à tout moment ». Et vous y pensiez souvent.
Cette infirmière se penche vers moi et elle me dit cette fois « j'ai du mal, je suis un peu hostile à son comportement, pas hostile, mais je suis réticent, mon corps est réticent » et elle me dit « je souhaite atteindre votre palais ». Vous imaginez la force de ces mots. D'ailleurs, ce livre est aussi sur la force des mots. Elle ne dit pas « je veux » ou « je voudrais », elle dit « je
dois,
souhaite ».
Ou « il
je
faut
souhaite.
Ouais, c'est ça.
Elle ne dit pas « toucher ».
Elle ne dit pas « gratter le fond de la gorge ».
Elle dit « atteindre ».
Ouais,
atteindre, c'est déjà un peu nuancé.
C'est plus doux.
Votre palais, elle ne dit pas « votre bouche », c'est le palais. Donc cette femme inconnue, dont je me souviens de toute ma vie, qui s'appelait Florence, je n'ai pas essayé de la rechercher, de la retrouver, mais j'aimerais savoir où elle est, ce qu'elle fait. Grâce à cette phrase, tout d'un coup, j'ai lâché prise, comme on dit aujourd'hui, et elle a pu effectivement un peu me nettoyer, comme on dit. Et donc c'est le symbole de ce que je considère comme une des parties les plus importantes de notre société, de notre vie, ce sont les aides-soignantes et les aides-soignants, bien sûr aussi. C'est le personnel de médecine et de santé français. Alors, on les a toujours applaudis pendant le printemps dernier. Aujourd'hui, on devrait pouvoir continuer de les applaudir, parce qu'ils continuent. Hein.
Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est comment vous l'expliquez, qu'au premier confinement, on applaudissait à 20h, mais pas au deuxième confinement?
Parce qu'on est un peuple volatile, volage, parce qu'on s'habitue. Donc on s'habitue à ça maintenant. Pour eux, pour les Français, c'est normal, ils font leur métier, ils font leur boulot. C'est pas un métier, c'est une vocation.
Un sacerdoce, carrément.
Oui, oui, ouais. C'est une mission.
Ouais.
Ce sont des femmes et des hommes, je ne parle pas en plus des grands profs, de tous les médecins, qui sont là pour nous sauver, pour nous aider. Donc bien évidemment, il faut les applaudir.
J'irai nager dans plus de rivières chez Gallimard, signé Philippe Labro. Et ça se dévore et en même temps, vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais me faire un chapitre. Voilà, c'est ça. Un chapitre de temps en temps. Puis là, vous pouvez même écouter le livre, parce qu'il y a une playlist de dingue à la fin dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, voici Fanny Ruet. En direct de Belgique.
Coucou les petits chats, ça va bien ?
Mais très bien.
Oui, moi c'est pas ouf parce que j'ai pensé à un truc. Imaginez, tu couches avec quelqu'un,
Bah ça doit être trop bien. Parce que là, ça fait tellement longtemps, les gars. Avec le confinement, j'ai oublié ce que c'était le sexe. Genre, je situe en gros, mais plus dans les détails. C'est comme quand t'essayes de chanter les paroles de la Macarena. C'est là genre, Macarena, buena. Eh, Macarena. Genre, tu sais comment ça se termine, mais pour le reste, tu mets juste n'importe quoi, n'importe où. Et moi, franchement, quand je vois des gens qui disent « Ouais, mais dès la fin du confinement, comment on va trop ken ?» Honnêtement, restons humbles, parce que après des mois de pandémie, de confinement, d'absence de vie sociale et tout, on va être des milliers de débiles du cul qui ont pas ken depuis des plombes, à moitié en panique, genre « Putain, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je me rappelle plus, je l'ai sur le bout de la langue. Ah oui, putain, c'est ça ! Quoi ?» Non, ça va être un de ces bordels. Ça va être un de ces bordels. Je propose qu'on mette en place un délai de réapprentissage. Genre pendant un ou deux mois, on va être particulièrement indulgent et n'avoir aucune attente les uns avec les autres. Ah ouais. Ou comme j'appelle ça, du sexe hétérosexuel. On va être vraiment... On va devoir être bienveillants, les gars. On va devoir s'encourager, à la limite flécher le parcours. Vraiment, tout le monde va devoir faire un effort. Parce que si le confinement a mis des mois à finir, on va pas râler parce que nous, on met 4 heures, ok ? On pourrait même... envisager des cours d'éducation sexuelle, mais mieux fait que ceux qu'on avait quand on était jeune, parce qu'on en parlait l'autre jour avec ma pote Lisa, et on s'est dit que le problème avec les cours d'éducation sexuelle, c'est que genre, on t'apprend à mettre un préservatif sur une banane, mais jamais à l'insérer.
Et moi j'ai essayé
de me remettre à niveau, hein, de pratiquer pour ne pas perdre la main et tout, mais le truc c'est que j'ai tellement oublié l'existence et le fonctionnement de la sexualité que j'en ai même plus envie. Imaginez, vous êtes en vacances à Mandelieu-la-Napoule dans le sud. Il y a un match de foot, Mandelieu-la-Napoule contre Montigny-le-Tilleul. C'est pas un match qui va changer l'histoire. Vous vous en foutez de qui gagne. Par contre, si une des équipes marque, vous serez content que les participants y soient contents. Et ben moi, c'est ce que je ressens quand je regarde du porno. Vraiment, ça m'indiffère, mais je suis tellement heureuse pour eux. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Avant, quand je regardais du porno, c'est pas un sourire que j'aimais voir sur les visages. Je vous jure, c'est ouf. C'est ouf. On parle des millions de morts à cause du Covid, mais pas de toutes les libidos qui passeront pas l'hiver. Et j'ai peur que ça revienne jamais, en fait. Parce que plus on se rapproche du déconfinement, plus j'angoisse. Parce qu'il y a deux choses. Il est vraiment temps qu'elles reviennent. Premièrement, Aline. Et secondement, l'envie de baiser. C'est que dans un cas, crier est la cause du retour. Et dans l'autre, c'est la conséquence. Mais cette phrase est peut-être un peu trop compliquée pour un jeudi matin.
Non, ça va aller. Merci Fanny.
Et Fanny, on la retrouve sur scène à partir du 5 janvier. Je suis heureuse de faire ce genre d'annonce dans cette émission. Tous les mardis et mercredis à la nouvelle scène, et c'est à Paris.
Parfait. Porte-toi bien, Fanny. Merci beaucoup. Il y a des proverbes, des phrases qui viennent parsemer comme ça votre livre. On parlait, Woody Allen est très présent. Et il y a un proverbe corse que j'ai adoré, qui est pardonner, oui.
Pardonner, c'est chrétien. Voilà. Oublier, c'est couillon.
Ça, mais
c'est ma religion, ça.
C'est génial. C'est génial parce que ne rien oublier, c'est exactement l'exercice que vous avez fait. Ces cahiers vous ont aidé. Est-ce qu'il y a en lisant les notes que vous aviez prises, vous avez redécouvert des choses que vous avez oubliées ?
Bien évidemment. La mémoire, hein, elle peut défaillir. Donc c'est pas mal de prendre des notes. J'ai fait ça toute ma vie, moi. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai des carnets sur lesquels je note des choses.
Pourquoi ?
Comment
ça a commencé l'idée de faire un carnet intime, presque, ce que font les adolescentes ?
J'ai peut-être souvent lu ça chez quel écrivain qui disait qu'il faisait ça, quoi.
D'accord.
Mes premiers maîtres étaient des écrivains français, certes, mais aussi américains. Et Hemingway le faisait avant tout le monde. Hemingway est un de mes mentors en écriture. Bref, ayant pris toutes sortes de notes, c'est pas un journal intime que je tenais.
Non, d'accord.
Jamais. Mmh. Simplement des passages, des endroits, des anecdotes, des choses vues et des citations.
Et vous n'avez pas fait que prendre des notes, Philippe Labro. Alors moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin aussi, c'est de faire une sorte de plongée en arrière dans le temps, de vous imaginer aux côtés de Johnny dans des folles soirées où il y avait eu un peu trop de fumette.
Clairement, peut-être.
Et j'ai adoré vous imaginer comme ça, vous voir dans une autre époque, vous voir dans sentant un peu le jaillissement aussi d'une autre forme de musique, d'une autre esthétique aussi, parce que c'est de ça dont vous avez été aussi le témoin.
Et puis d'une chambre d'hôtel dans laquelle ils se retrouvent par terre tous les 4-5 ouais. avec les musiciens de Johnny.
Mickey Brown et Tommy Jones.
À écrire des chansons qui seront censurées.
Oui, enfin censurés, ils seront, oui.
Bah si.
Certains seront ignorés par certaines radios. C'est la fameuse...
Dont la vôtre.
Oui, dans la mienne. Dans celle qui sera un jour la mienne.
C'est ça.
Jésus-Christ est un hippie.
C'est ça.
Oui, qui a fait scandale.
Ça ressemblait à quoi d'être jeune à cette époque-là?
Oh ben, tout était ouvert. C'était formidable. Une liberté incroyable.
Une insouciance aussi?
Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'étais pas conscient de ce qui se passait. Mmh. Je faisais. J'agissais. Mmh. C'est avec le recul, pardon, que j'ai pris sur mon travail avec Johnny, l'importance et l'intérêt que ça a véritablement dans ma vie. Mais à l'époque, bon, on faisait ça comme ça.
C'est fou.
Hein, oui, son cousin, Lee Hallyday, m'appelle un jour en disant « Bon, t'es libre, on va à Londres, on a un paquet de mélodies, il faut faire des chansons, tu viens avec nous. » Voilà. C'est comme ça que ça se passait. Sans agent, sans relations publiques, sans toutes sortes de choses, sans réseau compliqué. Et je suis parti.
L'instinct.
Oui, l'instinct, l'intuition et l'envie. Hein, c'est toujours pareil, d'ailleurs, c'est ce que Johnny a si bien chanté, l'envie.
L'envie et l'énergie. La plume de Goldman,
oui. L'envie et l'énergie. Goldman, oui. L'intelligence de Johnny, c'est qu'il est allé chercher des paroliers, après avoir vu sa période d'IA, avec des chansons un peu naïves, il est allé chercher des paroliers qui, au fond, racontent un peu l'ère de son temps. Mm-hmm. Il a traversé les générations grâce à ça. Parce que, bon, on a travaillé ensemble, certes, et je lui ai apporté des textes différents de ce qu'il y avait avant. Mais ensuite, vous avez son travail avec Michel Berger, qui est extraordinaire, et puis avec Goldman, et puis beaucoup d'autres.
Je voudrais juste revenir sur la prudence avec laquelle vous avez qualifié les paroles de Johnny dans la période yéyé. Plutôt que de dire des paroles idiotes ou légères, vous dites naïves. Parce que je me souviendrai aussi toute ma vie, lorsque, avec mon arrogance, je traitais quelqu'un de con, vous m'avez dit non, il n'est pas con, il a son intelligence. Mm-hmm. Et vous revenez dessus dans le livre, à propos de sportifs, à propos mm-hmm. de chanteurs, en disant finalement, on est toujours le con d'un autre.
Sans aucun doute.
Voilà. Mais ils ont chacun leur intelligence.
Bah, évidemment. L'intelligence du couvreur ou de l'ouvrier, c'est une intelligence. L'intelligence de l'artisan, c'est une intelligence. Et puis il y a l'intelligence de l'intellectuel. L'intelligence de l'intelligent.
Non mais on juge par exemple un sportif qui a couru pendant 90 minutes après un ballon, qui arrive pour faire une interview totalement essoufflé, qui commet des fautes de français en disant « Voilà, mais lui il a rien dans le citron, il est bête ». Non, il a son intelligence.
Il a une autre forme d'intelligence. Voilà,
il a eu son intelligence, il a eu sa vision, c'est quand ça. Il a tapé à tel moment du match, tel coup vers tel autre joueur, c'est qu'il a eu une vision, c'est qu'il a conçu, il a synthétisé avec une rapidité inouïe. Parce que, vous avez raison Nagui, il y a cette intelligence-là, l'intelligence de l'instinct, de l'action. Mm.
Et surtout du rugby, hein. Le rugby est plus présent dans le livre aussi que le football.
J'aime les deux, j'aime tous les sports.
C'est ça.
Vous aimez boire de la bière, manger une pizza devant un classico.
Je me gêne pas, du tout.
Et il aime écouter de la musique, il y a donc une playlist aussi, mais par exemple on a demandé à Philippe Labro ce qu'il écoutait en 54, c'était le King. Well that's alright mama, that's alright
with you, that's alright mama. Et en 54, Philippe Labro, vous découvrez l'Amérique des drive-in, des blue jeans, des James Dean, des Ford Fairlane, du rock'n'roll, des filles à soquettes aussi.
Pas seulement soquettes, il n'y a pas que des soquettes, les filles.
Non, pas que.
Ah ben moi j'aimerais.
C'est la découverte d'un nouveau monde.
Ben oui, vous savez, j'ai 18 ans, je débarque avec une bourse d'études, une chance, je l'ai obtenue, et dans un pays qui, évidemment, pour moi, est... comme les Indes étaient pour certains explorateurs, où je connais personne, je parle à peu près bien l'anglais, mais néanmoins, et il faut s'adapter. Alors, c'est la première chose.
Et vous sortez de Montauban, hein.
Oui, voilà. Montauban par Paris quand même.
Bon. Ouais, mais bon.
passé 10 ans de ma vie, 12 ans de ma vie à Montauban, et ensuite nous sommes tous montés à Paris. Montés à Paris.
Ouais.
J'ai quelle expression ça aussi.
Tous les provinciaux disent ça, ouais, ouais, ça, évidemment.
Montés dans la capitale, en plus, à la capitale.
Je suis descendu, moi.
Et on le disait avec l'accent, tu vas dans la capitale. Bref, là c'est une autre capitale, c'est celle de la découverte de tout.
Oui, parce que moi je vous ai découvert écolo, oui. Vous avez travaillé dans des forêts, oui. Vous avez découvert la douceur
dans le Colorado.
Des aspens, des arbres.
Oui, bien sûr. La nature, bien sûr. Bon, je la connaissais un peu, parce que mes années à Montauban, on avait vécu dans un endroit assez boisé. Mais il est vrai que quand vous découvrez l'Ouest américain, cet espace, la beauté de ces sapins bleus, ce silence et ce contremaître dans le camp dans lequel je travaillais, qui m'a dit un jour, alors voilà un mentor, un contremaître tout à fait inculte, hein, autodidacte, il s'appelait Mac, je me souviendrai toujours de lui, il m'a dit, écoute, tu t'assieds et tu attends. Tu te mets sur un tronc d'arbre, tu attends. Et la nature viendra à toi. Et les oiseaux et les animaux, tu les verras passer.
Et ces oiseaux, on les entend moins, la pollution, et c'est l'un des pays les plus pollueurs au monde avec la Chine, l'Amérique. Cette situation vous inquiète évidemment ?
Oh ben évidemment, mais elle inquiète tout le monde. Hein. C'est devenu un thème universel.
Pourtant, le journaliste que vous êtes ne peut pas oublier la manière dont on regardait René Dumont dans les années 70 comme étant une espèce de fou chevelu sur son vélo en train de faire campagne pour l'élection et dont le discours à relire aujourd'hui est tellement d'actualité. C'est-à-dire qu'il, vraiment, il y a 50 ans, il nous disait tout ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, 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 oui. Mais les prophètes sont souvent considérés comme des fous. Ceux qui savent, ceux qui ont une vision prophétique, qui vous disent ce qui va se passer dans 20, 30 ans, 40 ans. Et en effet, mais il y a eu aussi une ou deux écrivaines américaines qui... Il y en a une qui a écrit le Silent Spring, le printemps silencieux, et qui effectivement, d'ores et déjà à l'époque, racontait ce qui est en train d'arriver à la nature. Quand vous lisez ce qu'on a lu il y a depuis deux jours, le nombre de kilomètres brûlés en Amazonie,
c'est fou, hein.
Tout ça à cause de cette espèce de cinglé qui préside le Brésil.
Bolsonaro.
Ah oui, mais il y a de quoi trembler. Hein.
Oui, mais pardon, il bousille le Brésil en brûlant des forêts. Ces forêts, il les brûle pour planter du soja. Ce soja servira à nourrir le bétail qui, lui, nourrira les Américains en surconsommation. Enfin, c'est le cycle infernal de la surconsommation et du commerce et de l'intérêt. C'est l'argent.
Oui, le cycle infernal de l'activité humaine.
C'est ça.
Oui, bien sûr. Et de l'aveuglement humain. Nous sommes aveugles et sourds à ce qui se passe.
Nous sommes notre propre prédateur. C'est,
tout à fait.
On se croit en haut de l'échelle, mais on se tue à petit feu. 72, vous écoutiez Charles Aznavour.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement.
Et 72, c'est l'héritier, avec Jean-Paul Belmondo.
Oui.
Vous dites que le personnage de Belmondo, c'est les Kennedy, en fait.
Oui, dans l'héritier. Effectivement, oui. Je me suis inspiré beaucoup de l'allure, du comportement des frères Kennedy. Je sortais de mes années de journalisme, puisque j'ai eu la chance de suivre toute l'affaire de cet assassinat.
Oui.
Et on a demandé, avec l'écrivain dialoguiste de ce film, L'Héritier, parce que c'est un scénario original que j'ai écrit avec Jacques Lanzmann, à qui je tiens à rendre hommage, oui. Vous savez, vous écrivez jamais seul, là, au cinéma, il vaut mieux, plusieurs. Et on a essayé de construire ce personnage costaud, viril, machiste, misogynien invraisemblable. Aujourd'hui, je ne peux pas le tourner, ce film, hein, je n'ai pas le droit. Hein. Je vais directement en prison pour quelques séquences du film, en particulier celle où Jean-Paul... patron de presse, gifle à plusieurs reprises sa collaboratrice, ou même quand le soir chez Maxis, très bien sapé, il a deux femmes à côté de lui, et toutes les deux, sans doute, un jour finiront dans son lit, et il les regarde avec une espèce de regard un peu cynique, après. Tout ça est inacceptable.
Bon, ça, c'est l'amour dans le pré. Hein, mais...
On n'a plus le droit de faire ça. Mais c'est un film qui est quand même raconté une époque.
Et tant mieux, ouais, absolument. L'époque se retrouve filmée sous votre œil. Il y a, à propos de Belmondo, cette scène entre Denner et Belmondo qui est absolument incroyable.
Oui, j'ai aimé raconter ça, parce qu'il faut raconter aux gens. Ce livre, il raconte. Hein. Qu'est-ce que c'est que tourner un film? Comment ça se passe? Comment vous êtes avec vos comédiens? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce qu'ils arrivent à vous donner? Et là, c'est la scène où l'héritier donc est assassiné. Donc il est sur le sol, et Denner, son copain, son frère d'armes, est penché vers lui, et donc le regarde, et voit bien que son ami meurt, et est mort. Et Denner, qui est un immense comédien...
Vous a prévenu avant la séquence. Il n'y en aura qu'une.
Oui, il dit, je ne pourrais pas le faire deux fois, parce qu'il s'habite lui-même du chagrin. Il est devenu le personnage. Il n'est plus du tout Charles Denner. C'est ça la force des acteurs, d'ailleurs. Il est complètement... Lowenstein, il s'appelle Lowenstein.
Il faut préciser qu'au cinéma, on peut aller jusqu'à 5, 10, 15 fois plusieurs prises. Oui. Mais là, en l'occurrence, il vous dit, j'en ferai qu'une. Et vous êtes bouleversé.
Je crois pas que je peux vous... Et il va s'asseoir dans un coin. C'était l'aéroport Fiumicino à Rome, qu'on avait pratiquement privatisé, forcément, pour ce tournage. Avec des gros moyens, d'ailleurs. Bon, merci Jacques Strauss, très bon producteur. Et puis, là-dessus, le chef opérateur me dit, écoutez, Philippe, oui, bien sûr, c'est formidable, mais vous savez bien qu'il nous en faut une seconde prise.
Par sécurité, déjà.
Mais évidemment, par sécurité. On ne sait jamais. Je dis, d'accord. Donc, je vais voir Charles, qui était encore assis dans son coin. Il était encore dans le chagrin de l'acteur, du personnage. Je lui dis, Charles, je suis désolé, mais on va être obligé de la refaire. Il dit, bon, je ne lui ai pas donné un ordre, on va être obligé de la refaire. Il dit, bon, je vais essayer. Et il l'a refait, et en vérité, c'était meilleur que la première fois.
Et c'est celle qui est dans le film.
Oui, bien sûr.
C'est la deuxième qui est dans le film. La seconde, pardon, parce qu'il n'y en a pas eu trois.
Non, il n'y en a pas eu trois.
Donc la seconde.
Denner, très pudique, je ne savais rien de lui ou presque, c'est un homme très très discret. J'ai appris plus tard qu'à l'âge de 16 ans, juif polonais, il était rentré en résistance. Ça a été un résistant, Charles Denner. Ensuite, il s'est reconverti dans le cinéma. Personnage que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les comédiens et les comédiennes parce qu'ils vous apportent quelque chose que vous n'avez pas écrit. Vous avez écrit le scénario, le dialogue et tout, mais eux arrivent avec leur corps, leurs inventions.
À propos de résistance, les justes parmi les nations, vous l'évoquez également avec cette phrase formidable « c'est bien naturel, que voulez-vous que nous fassions ?» Évidemment qu'il fallait protéger...
Oui, puisqu'on les aimait.
Puisqu'on les aimait,
de ma mère, ça, oui. Voilà.
On va revenir dessus, mais d'abord, je voudrais parler avec François Lelor, qui est en ligne, qui est psychiatre et écrivain. On voudrait parler de la dépression. Bonjour François, merci d'être avec nous. Vous avez signé Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existe, publié aux éditions Lattès. Vous êtes psychiatre et écrivain. Pouvez-vous me dire à quel point la dépression, et peut-être encore plus avec la pandémie qui nous touche, la dépression touche énormément de Français. On a des chiffres. Combien de personnes en France souffrent de dépression ?
Eh bien, écoutez, on dit au cours d'une vie, c'est à peu près une femme sur 4 et un homme sur 6. Donc je vous laisse faire une règle de 3, mais ça fait quand même quelques millions.
Mais pourquoi les femmes seraient plus touchées que les hommes ?
Ah, mais ça, c'est une grande injustice, mais pour les troubles anxio-dépressifs, apparemment les femmes semblent plus vulnérables que les hommes. Sinon qu'elles, au moins, viennent chercher de l'aide plus tôt. C'est-à-dire qu'en général, les hommes consultent quand ça va plus mal. Quand je vois qu'un premier rendez-vous est un homme, je suis un peu plus tendu que quand c'est une femme, car en général, les hommes, on a plus de mal à accepter l'idée qu'on doit se faire aider.
Comment se manifeste la dépression ? Comment savoir nous-mêmes si on est en dépression ou c'est juste on n'a pas le moral, ou on a des doutes, on se pose des questions, on vieillit, on a peur de mourir. Enfin, tous les sentiments un peu flottants autres que le bonheur ne peuvent pas être appelés des signes prémonitoires d'une dépression.
Mais je dirais qu'il y a d'abord une question d'intensité. C'est-à-dire qu'on peut tous se sentir un peu triste, découragé... sans trop d'envie, mais dans la dépression, ben, ça atteint une intensité, en général, inhabituelle. Les gens disent, ben non, j'étais pas comme ça, j'ai déjà eu des mauvais moments, mais pas aussi intense. Après, il y a la durée, c'est-à-dire, est-ce que... parce qu'on peut tous avoir un revers, une mauvaise nouvelle qui fait qu'on va être abattu pendant quelques jours.
Ouais.
Mais si ça dure plus que quelques jours, si ça commence à durer des semaines, ça, le critère de durée est important. Et puis enfin, il y a un troisième critère, c'est le fait qu'on ne réagit plus aux choses qui habituellement vous font plaisir. Vous voyez, les patients déprimés disent bah, « finalement, ça ne me fait plus plaisir de voir mes amis » ou pire, « ça ne me fait plus plaisir de voir mes enfants » ou « des amis m'invitent, je ne sais pas, à faire du bateau, à faire un loisir qui d'habitude me plaît ». Eh bien, ça n'a pas le même goût. Pas du tout.
Ouais.
D'ailleurs, dans un livre de Philippe Labro, magnifique sur la dépression, il disait que en pleine dépression, il est invité à faire une croisière, je crois, en Chine, et que alors que ça devrait être un lieu de plaisir et de bonheur, c'est pour lui un véritable martyr.
Bah, surtout quand il se rend compte que toutes les personnes d'abord sont des personnes âgées. Et là, il y a un coup de barre, sans mauvais jeu de mots, avec le bateau pour Philippe Labro. Et justement, dans le livre, il raconte cette deuxième dépression et ce psy qui lui dit « c'est normal, je m'attendais à ce que vous reveniez, c'est normal d'avoir une rechute ». C'est souvent le cas ?
Oui, en fait, il semblerait que quand on fait un vrai épisode dépressif, on court à peu près le risque de rechuter une fois sur deux, comme il faut bien le dire.
C'est énorme, hein.
On espère toujours... Alors, ça dépend, hein, je veux dire, quand quelqu'un déprime à la suite d'un revers important, que le traitement marche bien très vite, etc. Parfois, ça reste unique, hein, faut quand même le dire, je ne veux pas rendre pessimiste, mais il faut accepter. Mais souvent, c'est un peu comme dans tout, quand on a fait une crise d'asthme, quand on a fait une poussée de rhumatisme inflammatoire, on a plus de risques d'en faire une deuxième que quelqu'un qui n'en a jamais fait.
Et ma dernière question, y a-t-il une règle, une proportion entre ceux qui sortent d'une dépression avec une espèce d'appétit de la vie décuplé, une sorte de carpe diem, et à l'inverse, ceux qui ne retrouvent plus jamais le goût de la vie qu'ils avaient avant?
Normalement, avec les traitements modernes, si vous voulez, on arrive à faire que les gens retrouvent le goût de la vie. Alors parfois, il leur reste quand même une certaine trace de la dépression. Ils sont tout à fait aussi en forme qu'avant, mais ça s'améliore. Et puis alors parfois, effectivement, les gens se retrouvent encore plus actifs, ou du moins tout aussi actifs qu'avant. Et puis parfois aussi, ça révèle ce qu'on appelle un trouble de l'humeur, c'est-à-dire qu'après leur dépression, les gens vont avoir une espèce de phase d'excitation où ils vont là être au-dessus de leur état normal. Donc disons, la dépression, c'est une grande famille, donc il y a quantité de formes et d'évolutions différentes, mais ce qu'il faut surtout, c'est se traiter le plus vite possible et accepter évidemment que son médecin ou son psychiatre ne va pas forcément trouver le bon traitement du premier coup.
Ouais, et l'aide de la famille aussi, qui est très importante, puisque Françoise, pour lui rendre hommage, votre épouse, Philippe Labrou, vous a énormément soutenu pendant ces périodes. On va l'évoquer évidemment dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup François Lelore, bonne journée. Je rappelle, Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existe, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. La bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi, Morgane Cadignan, Fanny Rué, Monsieur Jérémy Crédville, Alexis Le Rossignol et notre invité Philippe Labrou. Philippe Labrou qui signe J'irai nager dans plus de rivières aux éditions Gallimard. Ce livre où vous rendez hommage à ceux que vous aimez, bien plus en effet que de tenser ou de vous moquer de ceux que vous pourriez, je sais pas, soit ne pas aimer, soit ne pas oublier pour ne pas être couillon, justement, pour reprendre ce proverbe corse. Et les femmes sont là aussi. Et il y a aussi une allusion à Julien Clerc, y compris en termes de... Il est présent dans votre playlist à la fin du livre. mais presque aussi, ça aurait pu s'appeler « Femmes, je vous aime », parce qu'elles sont très présentes, ces femmes, dans votre vie, de votre maman à Françoise, en passant par cette infirmière qui vous a soigné. Françoise Giroud aussi, dont vous décrivez quelques rencontres, y compris quand vous lui demandez d'ailleurs des conseils pour le titre de la traversée. Elles ont jonché votre vie.
Ben oui, Françoise Giroud, en effet, pas seulement elle. Mais oui, je pense que d'une certaine manière, les femmes ont peut-être plus influencé mon travail, mon écriture, ma sensibilité, que les hommes. Oui, j'ai été chanceux, j'ai eu les deux. Hein. Et bien sûr, j'ai une mère admirable... Le miracle d'une rencontre avec ma femme, des filles intéressantes, vivantes, brillantes, qui m'ont d'ailleurs inspiré, parce que j'ai écrit, comme vous le savez, sous pseudo, des cornichons au chocolat.
Oui, sous le nom d'une fille, d'une adolescente.
Inspiré par Alexandra, j'ai écrit Manuela, inspiré par Clarisse, enfin, je me suis beaucoup mis d'ailleurs dans... souvent, j'aime ça dans certains livres, dans la peau d'une femme.
Mais est-ce que vous...
Puis vous ouvrez le livre avec la petite fille.
Oui.
Cette petite fille qui vous demande de vous protéger, qui vous demande de la protéger.
Oui, c'est le début du livre.
Vous demande de me protéger.
Petite fille de 6 ans qui vient me voir sur la plage, c'est ma fille, et qui me dit « protège-moi ». Et moi, dans ma prétention narcissique, je crois qu'elle veut dire « aime-moi, embrasse-moi », tout ça. Or, c'est toujours pareil, la vertu des mots, ça veut dire quoi, protège-moi? Ça veut dire qu'elle se sent en danger. C'est qu'elle, d'ores et déjà, a senti dans son corps quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, 2 heures plus tard, elle a de la fièvre. Et moi, je n'avais pas compris. Le mot protège-moi, c'est un mot lourd. Donc, tous les mots ont un sens. Tous. Et je raconte cette anecdote qui démarre le bouquin, qui suit d'une autre, tout aussi merveilleuse. Mon petit garçon... qui joue au tennis avec un copain, et le copain, ça se passe pas bien, et le traite de fils de pute. Et mon fils dit, bon, très bien, je m'en vais. Il est invité chez eux pendant le week-end, chez les parents de ce garçon, à 200 km de Paris. Et il s'en va. Parce que on a insulté sa mère.
Évidemment, évidemment.
On a insulté sa mère.
C'est déjà bien qu'il n'ait pas mis un coup de raquette dans la tête du mec, mais bon.
Et il va à la gendarmerie.
Et il porte plainte.
Pas à la police, à la gendarmerie. Il dit, je pourrais porter plainte, mais je ne le ferai pas. Appelez mon père.
Il avait quel âge à ce moment-là?
8 ans.
C'est génial.
Ouais, c'est formidable.
Oui, mais il accordait à ce mot qui aujourd'hui est devenu une telle banalité qu'aujourd'hui, dire fils de pute, c'est comme dire bonjour aujourd'hui.
Mais, quand on achète
du pain, c'est délicat.
Alors, là où Philippe Labro n'a pas tort, c'est un rappeur, en l'occurrence, c'est Attic qui me dit ça dans une interview il y a quelques semaines de cela. Il a appelé une chanson FDP, justement, l'acronyme de cette insulte, en disant maintenant, c'est dit dans tous les sens, et il me dit, mais c'est n'importe quoi, alors qu'il a 20 piges, hein, ce rappeur, et il me dit, c'est n'importe quoi, je reçois des messages sur les réseaux sociaux avec j'adore ton album, j'adore ton flow, FDP. Et il dit, mais non, mais ça devient n'importe quoi. Donc il a voulu
ponctuer les phrases.
Ouais. Oui, c'est ça.
Il y avait un truc comme ça aussi sur Vinted où quelqu'un demande le prix, il lui répond 20 euros FDP, il dit, ben dis donc, et en fait, c'était frais de port.
Il lui a répondu, je te soulève ta grand-mère.
Je te soulève ta grand-mère.
Voici Alexis Lancy
en parlant de...
Merci FDP.
Sans aucun enchaînement.
On va continuer à parler littérature, si ça vous dérange pas. Voilà, hein. Parce que j'ai moi-même écrit un roman que j'ai fini hier soir. Donc ça, c'est du champagne. ça m'a pris pendant le confinement. Je lisais Dostoïevski. Je me suis dit, franchement, ça va, ça se fait, quoi, c'est jouable. Alors, dans un premier temps, il faisait 220 pages, mais mon éditrice m'a dit, il y a quelques passages superflus. Faudrait réduire un peu. La version finale fait 33 pages. Voilà. Je lui ai dit 187 pages en moins, c'est beaucoup, non? Elle m'a dit non, on a gardé l'essentiel. Le début et la fin, en fait. Mon livre, c'est un résumé de mon livre. Il va être imprimé sur des fiches Bristol. L'équivalent en chronique radio, ce serait ça. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous parler... Bonne journée à tous!
Elle est bien.
C'est vraiment...
Elle est bien, cette chronique.
Le bouquin est aussi bon. C'est vraiment un roman qui se lit d'une traite, en tout cas. C'est même un roman qui se dévore. En quatrième de couverture, mon éditrice a mis écriture concise et efficace. Peut-être que celui-ci, vous le lirez, Nagui, d'ailleurs. Contrairement à celui de Philippe Labro, comme vous avez dit ce matin.
Tu parles.
Sinon, j'aurais aimé vous dire que c'est une super idée de cadeau pour Noël, mais on a merdé au niveau des délais et il sort le 14 janvier. Voilà. 2020, quand tu nous tiens. C'est dommage, parce que c'est vraiment mon meilleur roman. Enfin, c'est le premier aussi, mais... En tout cas, ne passez pas à côté, parce que la maison d'édition n'en a tiré que 200 exemplaires. Ils y croient, si vous voulez, mais modérément. Un peu comme quand tu vois un blanc en finale d'un 100 mètres, tu vois. Tu te dis... Bon, c'est déjà une victoire pour lui, c'est ce qu'on dit en général. En tout cas, ne ratez pas la sortie du livre, parce que j'écris à la vitesse de Laurent Voulzy, donc le prochain sortira dans 10 ans. Là, vous vous dites, il va quand même pas faire sa promo pendant toute la chronique?
Si
de la chronique se déroule comme prévu, a priori, si. Hein. Alors, c'est aux éditions Plomb, pour ceux que ça intéresse, Plomb dans l'aile, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est le même éditeur que Sarkozy. C'est-à-dire que lui et moi, on est collègues maintenant. C'est quand même formidable. Parfois, on se croise à des cocktails. Je lui dis, ça va? Il me dit, oui, ça va, ça va. Faudra que tu viennes manger un soir. Après, on se demande si c'est lui qui écrit ses bouquins, quoi. C'est aussi le même éditeur que Christine Taubira. Mais là, j'ai pas de blague parce que c'est mon idole. Ouais, tu tapes Christine Taubira, Eric Ciotti dans YouTube et tu comprends pourquoi.
Ouais.
Tu as la référence?
Absolument,
c'est magnifique.
Absolument. À l'Assemblée, c'est...
Voilà,
qu'est-ce
une fois
c'est
par
beau.
Semaine environ, c'est un petit qu'est-ce bonbon au caramel.
Beau, ouais. Ça s'appelle pas Christiane?
Christiane, exactement.
Ouais. C'est si. Ça.
Bon, c'est marrant en tout cas parce que le monde.
Si, mais il a dit Christian.
Ah, j'entendais Christine.
Non, j'ai dit Christine.
Ah, pardon. Ah,
je vais la refaire.
Non, tout va bien. Tout va bien.
C'est marrant en tout cas le monde de l'édition. Moi, je pensais qu'on écrivait des idées et qu'on était aidé ensuite. Mais pas du tout. Faut tout écrire soi-même. Et après, il y a une correctrice. Moi, volontairement, je lui ai laissé des fautes pour qu'elle s'ennuie pas, parce que 33 pages quand même. Même les prénoms des personnages, j'ai dû les trouver tout seul. Heureusement qu'il y en avait qu'un. Voilà. Donc l'attachée de presse va être contente. Je fais ma petite promo correcte là. Je vous le dis quand même parce que sinon elle va
et
me gronder. Il s'appelle Les Voies Parallèles, exactement.
Bah oui.
C'est un roman qui parle d'émancipation et de déterminisme social dans une France rurale que l'auteur connaît bien.
Mm-hmm.
L'auteur, c'est moi. C'est quand même magnifique de dire ça.
Schizo.
Ouais, ça fait bizarre. Il fait 192 pages en plus. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas en tout cas pour l'auto-promo.
Si.
On a une année difficile avec les artistes. Donc voilà, si je peux en vendre quelques-uns, au moins 199 puis que j'en garde un pour moi. En plus, je le répète, c'est vraiment mon meilleur bouquin. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Alexis.
France Inter, Nagui, La bande originale.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'Alexis est de retour sur scène aussi, au point virgule, le 19 décembre.
À partir du 19 décembre. Merci. J'irai nager dans plus de rivières chez Gallimard, Philippe Labro. Ça aurait pu s'appeler aussi L'amour existe, puisque c'était le titre d'un premier court-métrage de Maurice Pialat.
Exactement.
Et cet amour-là, il est aussi bien l'amour de vos proches, l'amour de votre métier, et puis là on comprend aussi l'amour de la vie, parce qu'il y a beaucoup d'émerveillement sur des oiseaux, sur la nature, sur des couleurs.
Oui, bien sûr, mais la vie est merveilleuse. D'abord, nous n'en avons qu'une, alors autant l'apprécier. Et bien sûr, c'est pas simplement les gens, c'est la nature, c'est se promener, c'est, encore une fois, Béart, qui a été sous-estimé, qui était un très bon parolier, disait « Tout ce qui est gratuit est merveilleux. » Donc, tout ce qui est beau ne coûte rien. Voilà.
Tout ce qui est beau ne coûte rien. Ce à quoi aussi, ça me fait penser à la prise de bec avec Serge Gainsbourg, puisque Gainsbourg est très présent dans votre livre aussi, sur l'art mineur que pouvait être la chanson.
Mais là, il se trompait, Gainsbourg.
Oui, mais peut-être qu'il était que dans la provocation, parce qu'il voulait clasher avec Guy Béart, et qu'il n'en pensait rien.
Il n'était que provocation.
Enfin, mais... il avait quand même une frustration de ne pas avoir été peintre, donc c'est peut-être en opposition à la peinture qu'il disait ça.
Bien sûr, et il avait une frustration de ne pas être un grand cinéaste ou être un grand romancier. Il s'est réfugié dans la musique, c'est un génie, mais effectivement, il a voulu provoquer Béart en disant « non, c'est pas un art ». Ben si, la chanson est un art.
Et la culture, justement, aussi, avec les artistes, c'est Leïla Kadour-Boueddedi qui nous en parle.
Et je vous propose d'écouter un peu de musique, tenez.
S'il te plaît. Eminem.
Absolument.
Bah, j'ai un point. Beatles. Deux points.
Absolument, deux points pour Nagui.
Je vous explose.
La question n'étant pas de retrouver les titres, mais c'est bien joué quand même. Ces titres sont issus d'une playlist. À qui appartient cette playlist, d'après vous? Il y avait un indice dans l'un des titres.
Pas à Philippe Labro.
Non.
À Michelle Obama.
Absolument. C'est pas tant Michelle, c'est celle de Barack, en réalité. Mais bon, Michelle, Barack, c'est...
C'est un Deezer famille.
C'est un Deezer famille. Il a posté sur Twitter...
L'abonnement est moins cher.
pour accompagner la lecture du premier tome de ses mémoires, Une terre promise. On retrouve aussi du Aretha Franklin, du Beyoncé, du Jay-Z, du Bob Dylan.
Mais comme Philippe Labro, il a fait sa playlist aussi.
Absolument. Playlist, justement, un conseil musique à nous donner. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
Oh, j'écoute tout le temps.
C'est vrai, tout le temps.
De Lara Fabian?
Non, pas vraiment, mais j'écoute...
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas. Mais vous voyez, vous m'avez fait entendre tout à l'heure Aznavour, je réécoute Aznavour, parce que là encore, très belle mélodie, mais paroles. Il y a des formules d'Aznavour qui aujourd'hui sont passées dans le langage courant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, c'est devenu... Et puis j'écoute aussi quand même de la musique symphonique. Pour moi, toutes les musiques...
Qui a beaucoup inspiré Gainsbourg, d'ailleurs, la musique.
Bien sûr, évidemment, il s'est servi de Chopin, de Schubert. Ouais. Il a su s'inspirer de tout, Gainsbourg, c'est ça les génies.
Ouais.
Comme Picasso, ils reçoivent tout ce qui a été fait avant eux, et ensuite ils inventent.
La scène Picasso-Prévert dans votre livre, elle est totalement dingue. Je ne sais plus si c'est à Cannes ou à Nice, c'est à Nice, non?
Ça se passe à Antibes.
Pardon, entre les deux.
C'est dans la région, c'est dans le coin.
Ça m'a été raconté par Gérard Fromanger, ce merveilleux peintre, grand artiste que j'aime beaucoup. Et il était copain avec Prévert. Prévert, ils sont sur la Côte d'Azur, il lui dit « Viens, on va aller voir Picasso ». Et il est sur la plage avec sa famille, on y va. Donc ils arrivent. Et alors sur la plage déjà, il y a la famille Picasso, puis il y a une sorte de vide, parce que les autres plagistes savent que c'est le génie qui est là avec sa famille, donc on ne va pas le déranger. Bon, il n'y a pas de paparazzi, rien de tout ça.
Il était pas loin, il était à Valoris.
Donc Prévert arrive, et en fait, Picasso et Prévert, si vous y réfléchissez, ils se ressemblent. Ils sont assez petits, un peu ronds. Mmh. Ils ont le clope au bec, ils sont en short, ils sont là tous les deux face à la mer. Face à la mer. Et d'ailleurs, face à la mer, Picasso dit à Prévert, en pointant du doigt l'infini, c'est-à-dire l'océan, il dit, t'as compris quelque chose à ça, toi? Prévert dit non. Et Picasso lui dit, mais moi non plus, j'ai rien compris.
Et à propos de l'infini d'ailleurs, sans rentrer d'une manière insidieuse et irrévérencieuse dans vos croyances, l'infini, l'au-delà, l'après, vous venez de dire, on n'a qu'une vie?
Oui, personne n'est venu me dire qu'il y avait une deuxième vie.
Vous êtes revenu, vous avez eu une NDE.
Oui, effectivement.
La Near-Death Experience, c'est-à-dire cette lumière blanche, en sortant de votre enveloppe et en voyant et en entendant ce qui se passait autour de vous.
Oui, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est une
expérience. Mais...
C'est une expérience qui, à mon avis, vient beaucoup des produits qu'on vous inflige.
Donc de la drogue.
Oui, la morphine,
les médicaments.
Toutes sortes de médicaments qui font que, selon certaines sensibilités, vous partez ailleurs.
Et je suis parti ailleurs, effectivement, mais ça a duré un milliardième de seconde.
Donc vous croyez en quoi ?
Je crois que l'autobus 92 s'arrête au Trocadéro. Non, écoutez...
Vous n'aimez que les certitudes et pas le...
Je suis agnostique et néanmoins, je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'autre autour de nous, un mystère que nous ne contrôlons pas, que Balzac appelait la force obscure, que d'autres se permettent, ça les arrange d'appeler Dieu, ça arrange tout le monde d'appeler Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu, sinon cette force obscure ?
Oui, et qui n'est là que pour aider les faibles, ça aussi, vous le citez, vous reprenez une citation en disant que c'est une invention, Dieu est une invention des faibles qui avaient besoin de...
Bah, les hommes avaient besoin de construire des religions.
De se rassurer des religions, oui.
Mais pour quand même continuer, en revanche, je crois à Jésus-Christ et je crois à la parole du Christ. Mmh. Je crois pas forcément à sa résurrection, mais je crois à sa parole.
Leïla. Question suivante, quel est le point commun entre Timothée Chalamet, Adèle Haenel et... Camille Cotin.
Oh, ça ressemble à un casting d'un prochain film ?
Non, ce n'est pas le casting.
Ils font des trucs aux États-Unis.
Ils ont parlé à quelqu'un, ils se sont adressés à quelqu'un.
Ils se sont adressés à quelqu'un.
Ils ont signé une pétition.
Non plus.
Ils vont tourner aux États-Unis.
Non plus.
Et ils ont fait un baby-foot hier soir.
C'est les chats de Fanny.
C'est pas les chats de Fanny Ruet, c'est Timothée Chalamet en effet, non.
Est-ce que d'abord c'est artistique ?
C'est artistique, absolument.
Ah oui, ils ont un agent américain,
bravo.
C'est ça.
Bravo. Ils ont le même agent américain. La carrière donc de Camille Cotin devrait prendre aussi une dimension internationale.
Surtout, c'est l'agent qui va prendre de l'argent, surtout.
Sans doute. Elle est déjà bien connue, finalement, aux États-Unis avec la série 10% qui a pas mal voyagé sur Netflix. D'accord. Donc, il y a pas mal de possibilités qui s'ouvrent à elle, notamment bientôt un tournage avec Matt Damon. C'est pas mal, j'avoue. Ouais, j'avoue que ça m'a un peu choquée. Est-ce que l'Amérique, ça fait encore rêver ? Je vous pose la question, Philippe, parce que vous êtes un observateur très, très pertinent, très pointu des États-Unis. On l'a dit, vous avez suivi en tant que journaliste l'assassinat de Kennedy et vous avez écrit tellement de choses sur les États-Unis. Ça vous fait penser à quoi ce pays aujourd'hui, après cette élection présidentielle?
Ils reviennent peut-être à un peu de normalité. Vous parliez tout à l'heure, Nagui, de near-death experience. Je pense qu'ils ont vécu une near-death experience.
Avec Trump.
Ils sont passés,
sans voir la lumière.
Ils sont passés pas loin de la mort, sans lumière. Parce que ça a été très dur, ça a été 4 années d'invraisemblance, de manque d'éthique totale de la part d'un homme qui, par ailleurs, a eu quelques illuminations. Il n'a pas fait que des bêtises, hein, Trump. Néanmoins, là, j'ai la sensation qu'on revient à quelque chose d'à peu près normal. Biden est un homme intelligent, assez cool. Jusqu'ici, il a fait un sans-faute.
Il a surtout une très bonne équipe autour de lui.
Il s'entoure de des gens très expérimentés. Lui-même a 50 ans d'expérience politique. Il connaît le Sénat, il connaît tout le monde. Et donc, même si le Sénat reste républicain, ce que je crains, eh bien, néanmoins, il saura négocier, faire des compromis. Il va un peu avancer. Ça ne sera pas simple. C'est jamais simple, l'Amérique. Hein. D'ailleurs, la politique n'est simple nulle part. Hein.
La musique est très présente et on reviendra sur Gainsbourg, Hallyday, Birkin, toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Je parle de musique parce qu'il est temps d'avoir celle de Jérémy Crédville.
Moi, ce matin, je vous propose un petit tour d'horizon de la France en ce moment avec une reprise du tube, donc Bande Organisée. Alors, eux, ils sont plusieurs. Moi, je suis tout seul. Heureusement, j'ai un Simon Fache pas loin de chez moi qui est tellement magique qu'on a l'impression que je suis nombreux. Vous allez voir. Attention, parti.
Rodaté, t'as ton ticket 20h, tu peux te faire contrôler. 9h dans la rue, prends le métro, pas l'apéro. Ça n'a pas de sens, toutes ces mesures, ça n'a pas de sens. Puisqu'on pourra faire ce qu'on veut pour les réveillons de décembre. Tu voulais voir Molière, ça sera en DVD. De toute façon, il est mort, il est tout crevé, il est décédé. Avec jauge Covid, sous la porte la clé. C'est la scène bébé, c'est que des CDD. Pour se mettre une race, ça sera chez soi. Prends donc ta chope et tu peux la boire en 2 secondes 3. Tout biérisé, oh, fois un bibé, oh. Abus d'alcool, dangereux pour ton canapé. T'es intermittent depuis 2 mois, avec la crise tu t'es fait niquer. T'as une année blanche, sans travail ça va être compliqué. Hey, tu veux faire des répètes, hey, mais tu peux pas jouer. Hey, tu manges pas t'as la dalle, hey. C'est la scène bébé, pareil pour le sport. Plus d'espace que dans les transports. Le clochard il sent la bière. De sport. Producteur de musique sans main, je me suis fait kicker. Sans la caméra, mon cas est compliqué. Seul à 3 contre 1, je me suis fait matraquer. Je les voyais pas bien, leur visage flouté. Rafale, on m'attrape par le cas où il y a les
les sirènes elles font pain, pom, pain. Dans mon nez, deux ou trois coups de genou. Jacques les concerts, c'était pas trop la fête. Cette année, c'est un putain de casse-tête. Et les subventions, elles arriveront peut-être. Castex, il va trop profond, mais au moins du latex. Ah, 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 que la France, c'est ça. Ah, ah, ratata. Ah, ah, c'est pour la rime en ah, 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 que la France, c'est ça. Ah, ah, ratata. Ah, ah, c'est pour la rime en ah. Plus personne dans la rue t'accoste, sauf pour te demander de la thune. Des milliards, des femmes, des gosses, un mur passé sur le bitume. Faudra s'organiser pour aller au théâtre, au ciné. Pour les bars, c'est pas encore fait, va falloir que t'attendes janvier. Allez au resto, c'est le vin. Allez au resto, si c'est mieux. Allez au resto. Allez au resto. Il faut ça toujours là. Tu pensais qu'on ne le verrait pas. Sous le flot de toutes tes salades, ton herbicide me rend malade. Dans trois ans, ouais, tu parles. Promesse de mythomane. Tu brasses plus de vent pour moi qu'une éolienne sous tornade. Roselyne, bouge tes fesses. Culture en détresse. On t'envoie des SOS intermittents en PLS. Oh, oh, Roselyne, bouge tes fesses. Culture en détresse. On t'envoie des SOS intermittents en PLS. Moi j'avais un bar à vin. Et la Covid ça m'a atteint. J'avais un bar, je voulais en ouvrir trois. Au final je ferme le mien. Moi je suis disque d'or et platine. À la base c'était les Zéniths. Et là je fais quoi? Concert sur Zoom. En direct depuis ma cuisine. On parle des morts du Covid, pas ceux qu'on suicide. Envie de me mettre 10 000 volts. J'attends plus de mouvement de mon gouvernement pour pouvoir survivre à cette époque. Tes cours de Zumba, tes cafés au café, tes camarades, on sait bien que t'es tenté. Mais y'en a qui vont plus mal. Tes cours de Zumba, tes cafés au café, tes camarades, on sait bien que t'es tenté. Mais y'en a qui vont plus mal. Faudra s'organiser pour aller au théâtre, au ciné. Pour les bars, c'est pas encore fait. Va falloir que t'attendes janvier. Allez au resto, c'est le vin.
Incroyable.
Il fait ça tous les jours?
Mais il est fou.
Non, pas tous les jours. Une semaine sur deux. Là, il va partir une semaine se reposer.
Et puis surtout, il va jouer le 17 décembre, Jérémy Crédville, à Angoulême. Et le 18 plein, voilà. Et 19 décembre à Nice.
Exactement.
Prenez vos billets.
Merci beaucoup, Philippe Labreau. Malheureusement, j'avais plein de choses encore à dire et à raconter sur votre livre, tellement il se dévore, il est absolument passionnant. Mais on retiendra que l'amour existe, que les femmes, vous les aimez, que le travail, vous l'aimez, que la vie, vous la dévorez, vous l'avez dévorée à pleines dents, et que vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est de continuer, évidemment. Et vous êtes déjà, d'ailleurs, dans un prochain roman.
Il est au bout de mon stylo.
Oui, c'est vrai qu'il prenait des notes pendant l'émission.
Faut que ça sorte.
On va terminer sur cette phrase de Chardonne, si vous voulez bien. Les femmes ont sur l'existence des informations qui nous échappent.
Parfait. Dernier mot pour Philippe Labreau. Demain, c'est Laurent Voulzy qui sera notre invité. Un milliard de fois merci d'être venu, Philippe. Et vous le savez, je vous le redis, je vous aime du fond du cœur.
Vous êtes trop gentil.
Portez-vous bien. Bonne journée sur Inter.